Pour les masses ouvrières, cette trahison fut un véritable coup de poignard dans le dos. Jouot, qui ne ménageait pas ses efforts pour briser toute velléité de résistance ouvrière, n'expliquait-il pas « Ce n'est plus à la tribune des congrès internationaux qu'il faut défendre nos idées, mais par la force des armes. » Ceux qui, en août 1914, attendaient des directives pour engager le combat contre la guerre et contre leurs exploiteurs, furent abandonnés à eux-mêmes. Ils se retrouvèrent seuls, sans moyens d'expression, face aux gendarmes apportant les ordres de mobilisation, aux nationalistes les plus répugnants, soutenus par les églises, les intellectuels et la presse. Le Premier ministre anglais Lloyd George l'admit plus tard, je le cite, « Si les peuples savaient la vérité, la guerre serait arrêtée dès le lendemain. Mais bien sûr, ils ne la connaissent pas et ne peuvent pas la connaître. » Les militants, dont des centaines, avaient effectué des années de prison avant-guerre pour leurs actions antimilitaristes, n'eurent d'autre choix, comme le relate le roman Les Sans-Patries, que de se rendre à leur caserne, la rage au ventre. Georges Dumoulin, un syndicaliste du Nord opposé à la position des dirigeants de la CGT, raconte « Nos syndiqués sont partis à la guerre. Ils n'ont pas fait l'insurrection. Je les ai vus partir, nous avons pris la même rame de wagons à bestiaux. Mon silence était le signe de la désapprobation, autant que la honte qui m'étouffait. » Même un militant de la trempe de Pierre Monnat, lui-même mobilisé au front, écrivit plus tard à propos de l'abattement ressenti alors, et je le cite, « J'avais reçu un coup de massue. J'avais besoin d'aller ruminer et cuver mon désespoir. Tout s'était effondré sous mes pas. Bien compromises mes raisons de vivre. Stupéfaction devant l'explosion de chauvinisme au sein de la classe ouvrière. Plus encore, devant le déraillement de tant de militants syndicalistes et anarchistes, de presque tous les socialistes. Le socialisme venait-il d'être tué ? La guerre avait-elle balayé l'esprit de classe, notre espérance en l'émancipation des travailleurs de tous les pays ? Difficile de ne pas croire que nos idées d'hier n'étaient plus que de lamentables ruines. Il fallait se cramponner, tenir le coup, si pénible que ce fût. » Les militants ouvriers, qui n'étaient pas mobilisés, se retrouvaient également sans perspective, sans moyen de maintenir les liens entre eux et de faire face à cette catastrophe que constituait la guerre et le passage de leurs dirigeants à l'ennemi de classe. À cette démoralisation s'ajoutait le poids du chômage, de la propagande, des mesures d'exception et de terreur prises pour contraindre les hommes à s'engager et à obéir. Au Royaume-Uni, le patronat licencia les ouvriers les plus jeunes pour les pousser à se porter volontaires. Une des plus grandes fortunes du pays, qui employait 75 domestiques et jardiniers pour l'entretien de ses terres, se débarrassa de tous ceux qui n'avaient pas été au front. Des organisations patriotiques postèrent leurs membres au coin des rues pour repérer les jeunes en civil et les désigner comme lâches à la population. En France, l'état-major fusilla, dès les premières semaines, des dizaines de soldats à titre d'exemple. Après des procès expéditifs, tout officier reçut l'ordre d'abattre sur place quiconque refusait d'avancer. Et il en alla de même dans toutes les armées. C'était d'autant plus dramatique que les mitrailleuses et les obus avaient arraché le masque de la démocratie bourgeoise et révélé sa véritable nature, balayant les illusions de ceux qui avaient voulu faire croire au caractère pacifique du développement capitaliste ou à l'impartialité des États. La guerre avait permis en outre à la bourgeoisie de prendre une revanche contre la classe ouvrière et de consolider sa domination. Elle fournissait l'opportunité et les moyens de répression au patronat pour museler les travailleurs, augmenter les cadences et imposer de nombreux reculs. L'ancien socialiste Millerand, alors ministre de la guerre, confia en 1915 à une délégation de la Fédération des métaux CGT « Il n'y a plus de droits ouvriers, plus de loi sociale, il y a la guerre ». Et celle-ci se menait aussi contre le prolétariat sur le front de l'intérieur. Les grandes familles bourgeoises prospérèrent au cœur même des États et grâce à leurs commandes. En France, Schneider, Michelin, Boussac, Citroën ou Renault. En Allemagne, Krupp, Thyssen. Aux États-Unis, Ford, Rockefeller, Morgan et tant d'autres. Les grèves furent encadrées, voire passibles des conseils de guerre. Les travailleurs sommés de taire leurs revendications et d'accepter les attaques patronales. Les femmes et les travailleurs étrangers, qui avaient remplacé une partie de la main-d'œuvre, recevaient des salaires inférieurs de moitié. Pour un travail de 10 heures par jour, 7 jours sur 7, les ouvriers chinois que l'État français avait recrutés étaient même payés 8 fois moins qu'un ouvrier qualifié. Dans plusieurs pays, dont la Russie, les grandes industries passèrent sous contrôle militaire, soumettant leurs travailleurs à la discipline la plus brutale. Le peu de protection existante obtenue par les luttes ouvrières du début du siècle furent suspendues. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les patrons, assurés du soutien armé de l'État, utilisèrent massivement le lock-out face aux grèves du printemps 1917, jetant ainsi les masses ouvrières dans les rues des grandes villes russes. La guerre permit enfin d'introduire des méthodes de rationalisation du travail, notamment le chronométrage, contre lesquels les ouvriers avaient lutté pied à pied. L'augmentation des cadences, la production à tout va, était devenue un devoir patriotique. C'était là d'autres bénéfices de guerre, tout aussi précieux pour la bourgeoisie, d'autant que ces attaques n'auraient pu être conduites sans le concours des dirigeants syndicaux. Sous le patronage des États, s'instaura à différents niveaux une véritable collaboration de classe entre le patronat et les syndicats, associée au fonctionnement de l'économie de guerre et aux meurtres de masse en cours. En France, la direction de la CGT, comme les secrétaires des fédérations, furent régulièrement reçus dans les ministères avec le but de maintenir la paix sociale et de prévenir les conflits sociaux, en d'autres termes, de les empêcher. Des commissions composées de délégués syndicaux et patronaux furent instaurées pour verser des allocations aux familles dont l'un des membres était mobilisé, d'autres pour conseiller le gouvernement dans le domaine de la législation du travail, proposer des conventions collectives, des salaires minimums dans les usines de guerre ou encore fixer les conditions de travail des apprentis. Des chefs syndicaux décidaient aussi, avec les patrons, du renvoi au front de certains ouvriers, c'est-à-dire à la mort. Jouot, converti en défenseur de l'industrie française contre le « Made in Germany », proclamait, je le cite, « Profitons-en pour nous ravitailler d'abord, assurer du travail ensuite et continuer notre supériorité dans le domaine de l'importation et de l'exportation pour l'avenir. » Et d'ajouter plus tard, « Si la victoire militaire est maintenant nécessaire, la suprématie industrielle et commerciale ne l'est pas moins. » Précurseur des défenseurs du « produisons français », dans les rangs du mouvement ouvrier, il démontrait ainsi que ce terrain est toujours celui de la défense des intérêts de la bourgeoisie. Il sera d'ailleurs récompensé par une nomination à la direction du Secours national, une œuvre charitable, destinée à distribuer de l'aide aux plus démunis. Cela lui valut de siéger aux côtés de religieux, d'industriels, de banquiers, mais aussi de l'ancien préfet Lépine, dont le nom était vomi des ouvriers pour avoir réprimé dans le sang les manifestations avant-guerre, et enfin de Charles Maurras, le théoricien de l'extrême droite monarchiste. Bien d'autres structures seront mises sur pied qui achevèrent l'intégration des appareils syndicaux dans l'État. Comité permanent dit de conciliation et d'arbitrage, instauré après une première vague de grève en 1916, généralisation de contrôleurs de la main-d'œuvre, puis de délégués d'atelier, après des essais aux usines Schneider du Creusot et Renault à Billancourt. Et c'est d'ailleurs là où le poids de ces appareils syndicaux était le moins fort, en particulier parmi la main-d'œuvre féminine, que plusieurs grandes grèves apparurent au printemps 1917. Aussi, quand le préfet de la Loire s'inquiéta à cette date de n'avoir que 90 gendarmes à sa disposition face à 80 000 ouvriers de ce département, le ministre de l'Intérieur Malvy télégraphia, je cite, « Mettez-vous de suite en rapport avec secrétaire, bourse du travail et délégué syndicat. Traitez-les avec la plus grande bienveillance, en leur faisant confiance, vous obtiendrez d'eux le calme et la bonne tenue nécessaire. » Ce processus de bureaucratisation et d'intégration était à l'œuvre dans tous les pays, preuve qu'il s'agissait d'un mouvement de fond avec des bases sociales correspondant à une nécessité pour les classes dirigeantes. Au Royaume-Uni, les responsables des trade unions furent non seulement associés à la politique gouvernementale, mais aussi aux campagnes de recrutement pour l'armée. En Allemagne, la production d'armement était coordonnée par un comité dans lequel siégeaient les grands manias de la métallurgie Krupp et Thyssen et les représentants des syndicats sociaux-démocrates. Ces derniers, avec le SPD, apportèrent leur soutien à l'entrée de 300 000 enfants dans les entreprises, à la loi dite de mobilisation civile patriotique, introduisant en 1916 un service civil obligatoire pour tous les hommes de 17 à 60 ans, qui n'était pas incorporé, et au programme Hindenburg, destiné à réorganiser autoritairement l'économie au profit des industries de l'armement et à augmenter la production. Mais la trahison des dirigeants de l'Internationale et des partis qui la constituaient ne fut pas générale. C'est en son sein même qu'apparut dans plusieurs pays, et dès la première heure, une fraction résolue à combattre la politique d'union sacrée et à maintenir le drapeau de l'internationalisme et de la lutte de classe. Au plus fort de la tempête et de la barbarie militariste, ces militants engagèrent une lutte résolue, avec la certitude que ce combat était indispensable et que tôt ou tard, les masses ouvrières retrouveraient la confiance dans leurs propres forces. Malgré la profonde démoralisation des travailleurs, le poids des nationalismes et la désorganisation, ils parvinrent à sauver le meilleur du mouvement ouvrier, préparant la reconstruction d'une organisation internationale. Dès le lendemain du 4 août, une fraction des dirigeants de la Deuxième Internationale, dont Lénine et Rosa Luxembourg, dénoncèrent le caractère impérialiste de la guerre et leur refus de toute union sacrée. Mais c'est Lénine qui, en raison du combat qu'il menait déjà en Russie depuis de longues années contre le mouvement, le courant menchévique, tira toutes les conséquences politiques et organisationnelles de la victoire du courant opportuniste et de cette trahison. Préparé à la tempête, le parti bolchévique avait tenu bon. Fidèles à leurs engagements de toujours, les révolutionnaires devaient œuvrer à la défense de leur de leur propre bourgeoisie. Il fallait profiter de la guerre que se font les brigands, disait Lénine, pour les renverser tous, c'est-à-dire transformer la guerre impérialiste en guerre civile. Le renversement du capitalisme restait la seule issue pour en finir avec la guerre. Et Lénine fut le seul à se donner les moyens de construire une organisation révolutionnaire pour le moment où la classe ouvrière reprendrait confiance dans ses forces. Les anciens partis socialistes, ainsi que l'Internationale, étaient morts en tant qu'instrument d'émancipation pour la classe ouvrière. Il fallait rebâtir des partis et une troisième Internationale, défendant la perspective révolutionnaire non plus seulement dans ses principes, mais dans les faits. Cette position resta très minoritaire, y compris dans le camp de tous ceux que la guerre et ses tueries révoltaient et qui n'avaient pas capitulé avec les chefs du mouvement ouvrier. Le pacifisme, l'idée d'une paix sans vainqueur ni vaincu, avait en effet davantage la faveur des intellectuels et des militants qui se voyaient, pour reprendre l'expression de l'écrivain Romain Rolland, au-dessus de la mêlée et n'avaient pas de politique à proposer au prolétariat. Bien que disposant d'une influence encore faible, le Parti socialiste serbe avait cependant, comme le parti bolchevique et ses députés, lui aussi refusé toute union sacrée. Et ce, malgré l'invasion de la Serbie par les armées autrichiennes. Voici comment l'un de ses responsables, Dusan Popovic, raconte dans une lettre à Rakovski l'annonce de la trahison des dirigeants socialistes. Je le cite. « Ce fut pour nous un coup moral terrible, le coup le plus dur de notre vie de militants. Mais malgré tout, cela ne nous a fait nullement chanceler. Cela n'a pas ébranlé notre profonde conviction d'avoir agi dans le sens socialiste, uniquement socialiste. En Bulgarie, une partie des socialistes, dits étroits, adoptèrent une position identique, de même que plusieurs organisations d'Europe centrale et des Balkans. Autour de John McLean en Écosse et de James Connolly en Irlande, aux États-Unis, avec le syndicat révolutionnaire IWW et le socialiste Eugène Debs, mais également en Italie, des voix se firent entendre pour contester la politique des dirigeants de leur parti et de l'Internationale. Ce fut aussi le cas dans plusieurs pays neutres, comme la Suisse et les pays scandinaves, où la pression chauvine et la répression s'exerçant sur eux étaient moins fortes. En France, seule une poignée de militants, parmi lesquels Alfred Rosmer, Pierre Monat ou Louise Somono, ne succombèrent pas à l'Union sacrée. Avec l'appui des révolutionnaires russes en exil, ils parvinrent à tenir, à publier brochures et journaux, puis à ressouder le courant internationaliste malgré la censure, la surveillance policière et les arrestations. Mais c'est d'Allemagne que vint le sursaut majeur, la preuve que l'internationalisme était encore vivace et capable d'offrir une perspective à la classe ouvrière. Dès le soir du 4 août, qui avait vu les députés socialistes voter à l'unanimité les crédits de guerre, Karl Liebknecht, s'y étant résolu après l'avoir combattu par discipline de vote en usage dans le mouvement socialiste, une première réunion des adversaires de la politique du SPD se tint autour de Rosa Luxembourg. Constatant que la social-démocratie n'était plus, selon son expression, qu'un cadavre puant, et que sa faillite était sans appel, elle engagea avec Karl Liebknecht, Franz Mehring, Clara Zetkin et des centaines de militants, notamment parmi la jeunesse, la construction d'une opposition à la ligne du SPD. Le courant spartakiste était né. Celui-ci ne parvint pas cependant à se construire de façon à écarter tous les opportunistes de ses rangs, ce qui retarda de plusieurs années l'émergence d'un véritable parti révolutionnaire en Allemagne. La conférence tenue dans le village suisse de Zimmerwald en septembre 1915 permit à ces noyaux militants de débattre directement et de s'entendre sur un manifeste réaffirmant leur dénonciation de la guerre impérialiste et la responsabilité des dirigeants de l'Internationale. Mais là encore, face à ceux qui se refusaient à rompre définitivement avec la social-démocratie, Lénine fut le seul à défendre la nécessité d'orienter leur politique vers la transformation de la guerre en guerre civile révolutionnaire. Malgré tout, Zimmerwald fut un pas en avant incontestable vers la reconstruction d'une organisation révolutionnaire internationale. Ces militants n'étaient pas en mesure d'inverser la force du courant chauvin et le poids des appareils d'État. Mais en préservant le drapeau du socialisme, en sauvant l'honneur de tous ceux qui s'étaient battus pour construire des organisations pour abattre la bourgeoisie et le capitalisme, ils avaient maintenu ouverte la possibilité d'une issue révolutionnaire à la guerre. Et lorsque la colère et les revendications des travailleurs, mais aussi des soldats, commencèrent à s'exprimer, ces idées devinrent des armes puissantes. En avril 1916, l'Irlande, où le pouvoir britannique avait pourtant, par peur d'un soulèvement, renoncé à introduire la conscription, comme dans le reste du pays, l'Irlande donc connut une véritable insurrection. Mais survenant à un moment où le prolétariat européen n'était pas encore sorti de sa torpeur, elle fut défaite, James Connolly et plusieurs de ses camarades sauvagement exécutés. Quelques jours plus tard, le 1er mai, vit plus de 10 000 travailleurs défier le pouvoir à Berlin à l'appel des spartakistes, derrière les mots d'ordre, « À bas la guerre, à bas le gouvernement, vive la révolution !» Rosa Luxembourg ainsi que Karl Liebknecht furent jetés en prison. Et lors de l'ouverture du procès de ce dernier, 50 000 ouvriers et ouvrières cessèrent le travail. Ces premières grèves politiques en annonçaient d'autres. En Écosse, l'entrée en vigueur de la conscription en octobre de la même année, s'ajoutant à la montée des revendications ouvrières, provoqua un puissant mouvement de contestation de la guerre. Les militants de Glasgow la Rouge reprirent à leur compte la politique des bolcheviks et engagèrent les travailleurs à transformer la guerre impérialiste en guerre civile. Ces événements indiquaient que la guerre, en imposant des sacrifices de plus en plus insupportables, accomplissait progressivement son œuvre en transformant les consciences des soldats et des exploités. Au printemps 1917, ce mouvement ébranla tous les pays et emporta son maillon le plus faible, la Russie. Le soulèvement de la classe ouvrière russe, entraînant dans son sillage la paysannerie pauvre sous l'uniforme, eut un caractère explosif qui prit de court les révolutionnaires. En janvier 1917, lors d'une conférence devant les jeunesses socialistes suisses, Lénine avait lui-même confié, je cite, « Nous ne verrons peut-être pas, nous autres vieux, les combats décisifs de cette future révolution. » La grève des usines de Petrograd, accompagnant les manifestations des ouvrières, renversa en quelques jours l'autocratie tsariste. Les soviets d'ouvriers et de soldats réapparurent, preuve qu'ils étaient restés depuis 1905 dans toutes les mémoires. Le prolétariat était redevenu une force agissante, pouvant tout emporter sur son passage. La guerre accomplissait son œuvre d'accélérateur de l'histoire. La transformation de la guerre impérialiste en guerre civile était engagée, faisant, comme l'écrivit Lénine, du prolétariat de Russie le chef de file du prolétariat révolutionnaire du monde entier. Déterminé et préparé à mener ce combat jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au renversement de la bourgeoisie, et parce qu'il avait fait la démonstration depuis la première heure de la guerre de la fidélité à ses engagements, le parti bolchévique fut l'instrument grâce auquel la classe ouvrière put s'emparer du pouvoir en octobre 1917. Mais ces militants étaient pleinement conscients que le socialisme ne pouvait l'emporter que par l'intervention révolutionnaire du prolétariat international, à commencer par celui d'Allemagne. L'année 1917 montra que cet espoir n'était pas illusoire. En France, plusieurs grèves spontanées, dans lesquelles les femmes étaient aux avant-postes, éclatèrent en janvier, puis de nouveau au printemps. Dans la deuxième quinzaine de mai, la police comptabilisa 100 000 grévistes dans la seule région parisienne. Des centaines de militants furent arrêtés et déférés devant les conseils de guerre, d'autres expédiés dans un camp militaire. En prévision d'un possible soulèvement, des unités furent positionnées aux différentes portes de Paris. Au Royaume-Uni, plusieurs villes connurent des manifestations de grande ampleur et le pouvoir commençait à s'inquiéter du manque de policiers, partis nombreux à la guerre, eux qui étaient chargés jusque-là de maintenir les travailleurs dans l'obéissance. Le pays compta près de 600 000 grévistes durant cette année. En Allemagne, 200 000 travailleurs paralysèrent les usines berlinoises. Dans son journal, l'héritier de l'empereur Guillaume II écrivait « Si l'Allemagne n'obtient pas la paix avant la fin de l'année, le danger de révolution sera imminent. » Dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, où la population, victime du blocus imposé dans ce but par l'impérialisme français et britannique, mourait aussi de faim, des émeutes s'en prirent aux affameurs et aux profiteurs de guerre. En Bohême, les usines Skoda étaient à l'arrêt, tandis que la répression de la grève des ateliers de confection de Prochtejov en avril 1917 fit près de 25 morts. L'introduction de la conscription au Canada provoqua à la même période des émeutes, en particulier au Québec, qui furent réprimées par l'armée et l'instauration de cours martiales. Aux États-Unis, malgré des lois d'exception particulièrement sévères et des milliers d'arrestations, l'opposition ne fut pas moindre. Entre 2 400 000 et 3 600 000 hommes échappèrent à la conscription en refusant de se faire enregistrer, et 300 000, soit 12% des enrôlés, désertèrent. En Italie, les ouvriers de Milan et de Turin se soulevèrent en août et des émeutes éclatèrent dans les zones rurales, proches des grands centres industriels. L'état de siège fut décrété. À leur tour, les masses ouvrières d'Espagne entrèrent en action alors que l'armée était elle-même parcourue par un mouvement de contestation. Mais la grève générale dans ce pays, à la mi-août, fut elle aussi réprimée dans le sang, les membres des comités de grève arrêtés, puis lourdement condamnés. Partout, le prolétariat exigeait du pain et la paix. Et ce mouvement de fond devait se poursuivre bien au-delà de l'année 1917, preuve que le couvercle de plomb maintenu avec l'aide des chefs socialistes et des bureaucraties syndicales depuis 3 années risquait de voler en éclats. La chute du régime tsariste et le renouveau des grèves constituaient en effet un avertissement et une menace pour l'ensemble des classes dirigeantes. Aussi, lorsque les premiers signes de mutinerie apparurent au printemps 1917 sur le front, leur réaction fut instantanée et brutale. Les fraternisations et les refus d'obéissance n'avaient jamais cessé. Mais par leur caractère isolé et la répression qui les avait frappés, ils n'avaient jamais menacé la machine de guerre. Cette fois, les soldats commençaient à faire de la politique avec leurs pieds. Ils refusaient, comme l'exprime la chanson de Craon, d'être des condamnés et de crever pour défendre les biens des bourgeois faisant la foire sur les grands boulevards. La France connut une vague de mécontentement qui déboucha dans plus de la moitié de ses unités sur des mutineries. Ayant éclaté au lendemain de la sanglante offensive du 16 avril 1917, ces grèves aux armées, comme les soldats les appelaient, se prolongèrent durant plusieurs mois. L'agitation gagna les villes, autour des gares où transitaient les trains de permissionnaires, faisant craindre aux autorités une contagion générale. Dans bien des cas, le commandement ne disposait pas de troupes assez fiables pour briser ces mutineries par la force. Il dispersa les unités, en détacha certains suspects avant que la justice militaire ne s'abatte. Sous l'impulsion du général Pétain, 530 condamnations à mort ou à perpétuité furent prononcées, 2000 mutins furent déportés, notamment en Indochine, où certains resteront jusqu'en 1925. Bien davantage moururent en première ligne où l'état-major les avait renvoyés. Les 20 000 soldats russes que le tsar Nicolas II avait expédiés en France en 1916 en échange de matériel de guerre et qui avaient formé des soviets sur le front français après l'annonce de la révolution russe furent quant à eux déplacés à plusieurs centaines de kilomètres vers le camp de la Courtine. Il fallut 3 mois au gouvernement français et au commandement russe pour réunir les 10 000 soldats nécessaires pour encercler et briser, à coups de canons et de mitrailleuses, la révolte des hommes qui s'y étaient retranchés. Dans le camp d'Étaples-sur-Mer, pouvant accueillir jusqu'à 100 000 hommes, et que le poète anglais Wilfred Owen qualifia d'immense campement épouvantable, une sorte d'enclos où l'on parque les animaux pendant quelques jours avant l'abattoir. Les troupes britanniques, elles aussi, se révoltèrent. Plusieurs unités furent réquisitionnées pour les mater. À Boulogne, l'armée britannique encore fit également exécuter plusieurs dizaines de travailleurs égyptiens et chinois mutinés. La peur de ces chefs était alors telle qu'ils interdisaient tout contact, y compris dans les hôpitaux, avec les troupes australiennes, réputées peu respectueuses de la hiérarchie et suspectes d'introduire des idées révolutionnaires. Dans l'armée américaine, de même que dans les troupes sud-africaines, la haine et la peur des Blancs étaient si fortes que les Noirs ne purent porter des armes et furent cantonnés à des tâches domestiques ou à des travaux pénibles. Des centaines seront malgré tout lynchés à leur retour pour remettre au pas tous les Noirs du pays. À l'été 1917, en Allemagne, la flotte fut touchée à son tour par des mouvements en son sein. Quant à l'armée italienne, elle faillit se désagréger intégralement. Au lendemain de la défaite de Caporetto, à l'automne 1917, 300 000 de ses soldats se rendirent et 300 000 autres entamèrent une marche pour rentrer chez eux. Ce qui fit cruellement défaut à partir de cette année 1917, c'est un parti révolutionnaire à même de percevoir cette évolution des consciences et d'offrir des perspectives aux exploités sous l'uniforme et à la classe ouvrière. Un parti capable de concrétiser la fraternité entre les combattants, né dans la boue et le sang des tranchées, cette colère partagée contre la guerre et ses responsables. Un parti qui aurait pu également s'adresser aux soldats et aux travailleurs des colonies que la France et le Royaume-Uni avaient enrôlés pour leur proposer un combat commun contre leurs exploiteurs. Car pour paraphraser Victor Serge, si la révolution était née de la guerre n'était point russe. Elle accélérait partout la révolte des exploités contre leurs exploiteurs. Malheureusement, les militants qui avaient combattu la trahison des dirigeants socialistes en août 1914 et commencé à s'organiser pour préparer les luttes à venir de la classe ouvrière contre la bourgeoisie étaient encore trop peu nombreux et leur influence trop faible pour prétendre jouer ce rôle. Quant aux social-patriotes, ils allèrent jusqu'au bout de leur trahison criminelle. Conscients que la classe ouvrière allait se retourner violemment contre les responsables de la guerre, ils tentèrent de prendre leur distance avec les gouvernements en place. La bourgeoisie allait en effet de nouveau avoir besoin de leur poids politique. En Allemagne, dont la classe ouvrière était la plus forte et que les bolcheviks considéraient comme l'allié le plus précieux de la révolution russe, les classes possédantes leur confièrent la tâche d'écraser dans le sang la révolution ouvrière qui éclata avec la défaite militaire en novembre 1918 et dont les assauts se prolongèrent durant plusieurs années. En Finlande, en Hongrie, en Italie, là où la révolution avait surgi des entrailles encore fumantes de la guerre, l'ordre bourgeois fut rétabli dans le sang des ouvriers. Ainsi, les dirigeants socialistes avaient-ils sauvé pour la deuxième fois le pouvoir de la bourgeoisie ? Ce n'était pas, hélas, la dernière. La Première Guerre mondiale, avec ses 20 millions de morts, ses blessés innombrables et les destructions qu'elle provoqua, a révélé à quel degré de pourriture la société bourgeoise est parvenue. La démonstration était faite que le capitalisme ne peut prolonger son existence qu'en faisant périodiquement de la société un champ de ruines et en plaçant l'humanité sous la menace permanente du chaos et de la misère. Le repartage du monde par les grandes puissances impérialistes à l'issue de ces années de barbarie, loin de résoudre les contradictions qui en étaient à l'origine, ne fit que préparer la catastrophe suivante et enfermer les peuples de nombreuses régions, à commencer par le Moyen-Orient, dans un carcan dont ils ne sont jamais sortis. Moins d'en 10 ans plus tard, l'effondrement de l'économie capitaliste précipita l'humanité dans une deuxième guerre mondiale encore plus meurtrière et destructrice. Et depuis, des générations entières ont payé un lourd tribut au maintien du pouvoir de la bourgeoisie. Aujourd'hui, tandis que celle-ci prospère, la gangrène nationaliste ou les intégrismes religieux s'épanouissent sur fond de crise, de famine, de dictature et de guerre sans fin. Jamais n'a été aussi évidente l'opposition entre les possibilités matérielles, scientifiques et techniques de l'humanité et les conditions d'existence des masses laborieuses. Et si la Première Guerre mondiale est aujourd'hui un fait historique et ses derniers témoins décédés, l'économie capitaliste porte toujours en elle la guerre, selon la formule de Jaurès, comme la nuée l'orage. De la bande de Gaza à l'Ukraine, en passant par l'Irak, la Libye ou à l'Afrique centrale, l'humanité paie un prix dramatique à la domination impérialiste. Au-delà de l'émotion légitime que ces conflits suscitent, ils nous concernent tous. D'abord, parce que les dirigeants des grandes puissances prétendent toujours les mener en notre nom. Ensuite, parce que ces guerres, qui peuvent paraître lointaines aujourd'hui, nous menacent directement. C'est pour faire face à de telles situations, comme la Première Guerre mondiale l'a montré, que les exploités ont besoin d'un parti se revendiquant clairement du programme communiste et qui ne se dérobe pas devant le premier obstacle d'ampleur. Un parti récusant toute communauté d'intérêt avec la bourgeoisie, toute unité nationale et toute idée de défense de la patrie et orientant sa politique contre elle et contre ses serviteurs politiques. Un parti, enfin, confiant dans les capacités du prolétariat à prendre son sort en main et convaincu que le capitalisme est un système d'exploitation qui ne peut être amendé, mais qui doit être renversé. Présente dans tous les pays et avec des forces incomparablement plus nombreuses qu'il y a 100 ans, la classe ouvrière reste la seule classe à même d'offrir une issue pour l'humanité. Mais alors que la bourgeoisie mène une guerre de classe impitoyable, les forces conscientes du prolétariat demeurent dispersées et faibles. La Deuxième Internationale est morte en août 1914, au moment où les partis socialistes et les organisations syndicales achevèrent brutalement leur transformation en instruments dociles de la domination bourgeoise. La Troisième Internationale, née de la Révolution russe et des leçons tirées de cette trahison, succomba à son tour sous le poids de la bureaucratisation et de l'isolement de l'URSS quelques années plus tard. Les partis communistes qui la constituaient sont devenus eux aussi des partis bourgeois qui se proposent au mieux de gérer les affaires de la bourgeoisie en entonnant ses hymnes, avec tout au plus un peu plus d'égard pour les exploiter. Quant au courant trotskiste auquel nous appartenons, il n'est pas parvenu à ce jour à sortir de son isolement et à s'implanter profondément dans les rangs du prolétariat. Mais cet objectif, qui était celui assigné par Trotsky lors de la fondation de la Quatrième Internationale, demeure. À nous de maintenir le drapeau de la révolution sociale, le drapeau du communisme, et d'ouvrir la brèche dans laquelle les générations futures s'engouffreront à leur tour. C'est à la défense de cette perspective et à la création d'un tel parti que nous devons aujourd'hui consacrer nos forces. Dans ce combat, la jeunesse ouvrière et intellectuelle que cette société d'exploitation et d'injustice révolte a toute sa place, son enthousiasme et son énergie sont même indispensables.